Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission de cinéma qui vous propose eh bien, aujourd'hui des chroniques sur les films qui sortent le 9 mars et puis des films qui sont déjà sortis. C'est le cas pour toi, Marine, tu as
oui, bonjour deux à options. Tous. Alors moi je vais vous parler de Brooklyn de John Crowley ainsi que de Zoolander 2, la suite de Zoolander 1, toujours avec Ben Stiller et de Ben Stiller.
Et puis toi Manu, eh bien, tu vas nous parler d'un film coréen.
Un jour avec, un jour sans, un jour avec. J'intervertis à chaque fois en fait. Donc un film qui est déjà sorti depuis un petit moment. Et puis bien sûr du nouveau film d'Elépine Carven, Saint-Amour.
Et puis bien moi je suis allé voir Divergente 3, je vous en parlerai. J'ai vu avec plaisir Belgica de Felix von Groningen. Mais je vais débuter avec Room.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors après The Revenant qui a consacré au moins DiCaprio aux Oscars hein, pour sa prestation, voici que sort le film qui a apporté le trophée de la meilleure actrice à Brie Larson, Room. Room, c'est un peu l'histoire d'Elisabeth Fritzl, revisitée. C'est une Autrichienne, alors c'est pas Natasha Campusch, mais c'est une autre qui a été séquestrée et violée pendant 24 ans par son père. Alors durant ce temps, elle enfantera à 7 reprises. Mais c'est aussi l'histoire de Natasha Campusch et puis aussi d'une jeune fille américaine séquestrée par un couple dans un cabanon aménagé au fond de leur jardin. Donc c'est adapté d'une histoire vraie, mais c'est surtout l'adaptation d'un roman d'Emma, alors Donoghue je crois on dit, qui s'est nourri donc de ces trois histoires. La Room, c'est la pièce telle que la nomme Jack, petit garçon de 5 ans, et sa mère qui semble en avoir 20. Un lit, un fauteuil, une table, une armoire, un lavabo, un réchaud et une télé. C'est sommaire. Et l'on sent bien que quelque chose cloche. Alors cette partie du film qui marque la vie de Jack et de celle qu'il nomme Ma, entre ces quatre murs, est bien menée par le réalisateur Lenny Abrahamson. D'autant qu'on comprend très vite qu'au-delà de cette room, pour le petit Jack, eh bien, il n'y a jamais rien eu. Il est né là, le monde pour lui ne concerne que sa mère et lui. Ce qui vient de la télé est un monde fictif, que ce soit les arbres ou tous ces gens qui conduisent des voitures dans les séries télévisées. Son imagination est bornée aux sollicitations de sa mère et de la télé. Ce n'est pas un enfant sauvage, non, mais un enfant captif, assurément. Intrigant, oppressant, curieux, la moitié de Room nous laisse entrevoir un film se nourrissant d'une veine dramatique, intimiste et allant vers le thriller. À la manière du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, que la mère raconte à son fils, eh bien Room prend un autre tournant quand Jack est averti que le monde qu'il connaît n'est qu'une partie infime, voire insignifiante, de celui qu'il pourrait explorer. Après cet épisode qui se jouera sur le suspense, eh bien le film reste enfermé, c'est le cas de le dire, dans un autre genre, le drame, et n'en ressortira plus. Il s'agit d'un épilogue qui s'étire et qui n'en finit plus. Alors c'est pas inintéressant, mais ça pourrait faire l'objet surtout d'un autre film. Alors à part quelques violons, eh bien Lenny Abrahamson ne nous noie pas tout à fait dans le chagrin, et l'interprétation de Brie Larson et de son fiston aide à faire passer le temps jusqu'au happy end. Voilà. Donc c'est plutôt à conseiller, en tout cas pour sa première partie, parce que voilà, imaginez deux êtres enfermés dans une pièce, eh bien bon, ça a déjà été fait au cinéma, mais je trouve que c'est plutôt bien fait, et surtout que le personnage qui retient la mère et son enfant, eh bien on l'a aperçoit à peine, et au bout d'un moment, peu importe son sort finalement. Voilà, c'est pas sur lui que s'attarde la réalisation. Room sort le 9 mars.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors attention, mini spoiler, hein, parce que je ne peux évoquer un jour sans, un jour avec, sans dévoiler l'histoire et la relative petite surprise qui vous attend à mi-parcours. Alors qu'en fait, moi, je l'ai vu en salle et je ne savais absolument rien de l'argument principal de ce que je considère vraiment comme l'un des plus beaux films sortis depuis ce début d'année. Alors, Hong Shin-soo, un réalisateur reconnu, débarque dans une petite ville pour présenter son dernier film. Arrivé un jour plus tôt, il se rend dans un temple local, lieu où il va rencontrer une jeune peintre novice, Lee Jong. Quelque peu attiré par la beauté de la jeune fille, il l'accoste et tente de nouer une idylle avec elle, qui se soldera par un échec au bout d'une heure. Puis surprise, le générique du film redémarre et la même histoire se rejoue devant nous. Le titre « Un jour sans, un jour avec » est non plus plus explicite. Alors sur un canevas conceptuel en apparence rappelant vaguement Le hasard de Kieslowski ou Smoking no Smoking d'Alain René, Hong Sang-soo, un cinéaste que j'avais perdu un peu de vue depuis 10 ans, depuis environ un conte de cinéma, réalise un bijou d'intelligence et d'évidence. Il parvient à surpasser ses modèles en choisissant un angle différent et, à mon avis, plus profond, enfin plus subtil. Ce n'est pas un acte manqué qui induit qu'une même journée peut basculer, mais ce que l'on est à l'intérieur si on décide d'être soi-même ou d'appartenir à notre corps social pleinement et de jouer un jeu. Alors la morale est peut-être un peu comme ça, un peu simpliste, mais le film touchant et souvent subtil. Alors le Coréen ne s'embarque pas dans un récit dichotomique artificiel et inutilement ludique sur les hasards de la vie. Au contraire, il rejoue à l'identique la même petite idylle furtive, ce quelques détails, attitudes vont changer le cours de la rencontre. En étant sincère, le cinéaste du film, à l'intérieur, pas Hong Sang-soo, hein, va modifier le cours des choses et vivre la beauté fragile d'un amour naissant alors que son attitude avait tout gâché dans la première partie. Et pourtant, c'est en étant lui-même, en admettant notamment qu'il est sous, en se mettant à poil devant les amis de la jeune fille, qu'il va faire chavirer le cœur de cette dernière. Comme quoi, rien n'est perdu. Le point de vue peut paraître comme ça un peu prosaïque, mais à l'écran, cette proposition de cinéma passe à merveille. Alors la mise en scène sous ses allures nonchalantes et paresseuses est au contraire audacieuse. Les parties pris formelles sont pourtant édifiants. Un jour sans, un jour avec avance lentement avec de longs plans séquences filmés en plan fixe, à peu près 5 minutes voire 10 par plan. Non, mais je préfère prévenir les spectateurs potentiel, perturbé parfois par des zooms très discrets, mais que l'on remarque, un petit zoom avec un long plan fixe, ça se remarque. Hein. Les décors sont réduits à leur plus simple expression, la lumière minérale se focalise sur les personnages. Alors cette radicalité n'a pas pour but de s'enfermer dans un cinéma austère et autiste, mais au contraire permet aux spectateurs de se concentrer sur la direction d'acteurs d'une exigence rare et d'apprécier par petites touches les changements d'attitude, d'intonation des deux comédiens, tous deux magnifiques. Alors la précision du dispositif impressionne et le film devient même extrêmement ludique, voire drôle dans sa deuxième partie. Alors il n'y a rien d'étonnant que Hong Sang-soo ait choisi une telle histoire, car au fond, il s'agit d'un cinéaste de la répétition qui, depuis ses premiers films, Les Très Beaux, Le Jour où le cochon est tombé dans le puits, ou encore La Vierge mise à nu par ses prétendants, raconte la même ritournelle, soit la rencontre éphémère entre un homme et une femme. Il s'intéresse juste à l'instant précieux où deux personnages s'abordent, ce jeu de séduction fragile. Ces rencontres sont souvent filmées en temps réel, avec un sens unique de la durée et une véracité peu commune. Alors surtout dans les scènes où les personnages se mettent à picoler et à réagir de façon aussi absurde que crédible. Alors pourquoi ? Parce que le cinéaste, dans la majorité de ses œuvres, voire dans toutes, il fait vraiment boire ses comédiens sans tricher et obtient d'eux des moments assez uniques, souvent très drôles et totalement surprenants. Je crois que c'est vraiment le cinéaste de la picole. Et j'ai rarement vu, on verra avec Saint-Amour, où c'est quand même moins crédible que dans les films de Hong Sang-soo.
Il paraît que Garrel aussi fait fumer du hashish, c'est assez comédien.
Oh là là, quelle décadence.
Et puis Lars von Trier est aussi réputé pour les pousser
à
bout.
Il les fait coucher entre eux, lui, c'est pas pareil.
Et il les hypnotise aussi, voilà. Dans...
Bon, en conclusion, abandonnant un jour sans, un jour avec, la déclaration d'amour du personnage principal, d'ailleurs, après avoir ingurgité une bonne quantité de verres, elle est aussi comique qu'émouvante et nous ramène parfois à notre propre réalité, si on s'en souvient. En tout cas, je vais me replonger dans la filmo de ce réalisateur que j'avais vraiment perdu de vue et qui m'avait peut-être un peu lassé parce qu'il raconte toujours la même histoire, avec des petites variations à chaque fois, mais bon. S'il est encore en salle, allez-y, c'est vraiment un film remarquable.
C'est le problème de certains réalisateurs coréens, alors que c'est un cinéma très fourni, mais il y a très peu de salles qui projettent les films, sauf des grands Park Chan-wook.
Oui, bien sûr. Voilà.
On passe à tout autre chose, ça va être Zoolander.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Oui, donc un autre film d'auteur pour enchaîner, Zoolander 2. Alors le premier Zoolander avait été un vrai échec lors de sa sortie en salle en 2001. Mais quelques années plus tard, grâce au marché de la vidéo, car à cette époque, on allait encore louer des DVD, n'est-ce pas ? Le film devint culte. On va se replonger dedans avec un petit extrait.
Vous ne croyez pas que dans la vie, il y a autre chose que d'avoir un physique hyper, méga, supra, giga, renversant ? C'est vrai, on devrait se consacrer peut-être à des choses plus constructives et significatives. Aider son prochain, par exemple.
Mais enfin, qui tu veux qu'on aide ?
Je sais pas, moi. Peut-être ceux qui ont besoin d'un coup de main. Les modèles aident beaucoup les gens.
Ils les font avoir une bonne image d'eux-mêmes.
Ils leur montrent aussi comment bien se saper et se coiffer de façon originale.
C'est vrai. Mm-hmm.
J'aimerais le croire.
Je sais ce qui pourrait t'aider à résoudre tous ces problèmes importants.
Quoi ?
Orange mocha frappuccino !
Ouais, ouais, allez, viens. Ne prends pas la tête, allez, viens. Ouais.
Voilà, alors il faut quand même préciser que c'est le genre de film qui est très important de voir en VO quand même, parce que les voix font énormément et les blagues aussi en français, c'est pas du tout aussi marrant.
Et puis là, visuellement aussi, ils font tout un tas de
évidemment, tic. Évidemment, hein, visuellement. Voilà, bon. Alors donc, pas loin de 15 ans plus tard, eh bien, on reprend les mêmes, mais vraiment exactement les mêmes, à quelques rides près, et on recommence. Alors on doit le scénario de cette suite très attendue à Justin Theroux. Justin Theroux, si vous ne le connaissez pas, a une carrière hollywoodienne assez schizophrène. Il est connu depuis peu de temps pour son rôle dans la très bonne série The Leftovers, que je vous conseille, mais il est également scénariste et acteur. On lui doit entre autres les scénarios de Iron Man 2 et de Tonnerre sous les tropiques, et en parallèle, il poursuit sur grand écran une carrière d'acteur dans le cinéma indépendant et non des moindres, puisqu'il a été l'une des égéries masculines de David Lynch et le premier rôle masculin de Mulholland Drive et de Inland Empire. C'était le point de Justin Theroux. Voilà. Alors, j'aimerais donc vous dire que le scénario de Zoolander 2 est une réussite totale et qu'on se fend la poire, qu'on se bidonne, mais pas du tout. C'est pas exactement le cas. Alors, accrochez-vous, je vais essayer de vous résumer ce qu'est le scénario quand même le plus inconcevable que j'ai entendu ces dernières années. Au commencement était le Jardin d'Éden avec Adam, Ève et Steve, le top modèle originel dont la beauté était sans pareil et dont le corps a le pouvoir de la fontaine de jouvence. Et bon, en fait, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça part absolument dans tous les sens et ce n'est qu'une toute petite partie de l'intrigue qui mêle aussi Justin Bieber, enfin, plein de pop stars, etc. C'est très confus et très fouillis. Le premier Zoolander était une comédie très réussie, à l'humour absurde, décalé, pas si stupide d'ailleurs, et c'était également une excellente satire du monde de la mode pour qui en connaissait un peu les us et coutumes. Les deux protagonistes étaient profondément bêtes et superficiels, spécialistes du duck face, et ils étaient interprétés avec un plaisir manifeste par Ben Stiller et Owen Wilson, qui se moquaient allègrement des top modèles, et ça fonctionnait vraiment bien. L'esprit Zoolander, c'était également faire apparaître le plus de guest stars possible, grimés pour l'occasion de la façon la plus ridicule qu'il soit, ainsi que des personnalités du monde de la mode en pleine tentative d'autodérision. Malheureusement, eh bien, ce nouveau volet a beaucoup de mal à reprendre la formule initiale. D'évidents problèmes de rythme altèrent la qualité des sketchs, et comme on le sait, la comédie, c'est une affaire de rythme. Peu de bons mots surgissent au détour des dialogues très poussifs et les caméos s'enchaînent à tel point qu'on se perd totalement dans l'histoire. Alors côté humour, les références à la pop culture sont multiples. Les références à la mode également, ainsi que les références au premier volet qui commence quand même sérieusement à dater. Alors autant dire qu'il vaut mieux être assez polyvalent pour saisir au vol toutes les blagues. Et puis finalement, bah, avec tout ce casting de vieux, entre guillemets, on assiste à une sorte d'éloge du has-been qui n'était pas du tout le cas dans le premier. Et ça s'en devient presque gênant et c'est pas du tout drôle. Donc c'est très dommage. Et puis c'est bête que ça soit la première fois en 4 ans qu'on revoit Penelope Cruz dans un film aussi mauvais, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on n'a pas vu depuis Cartel, il me semble. Oui, un film qui n'est d'ailleurs pas très réussi, et c'est un peu dommage parce qu'elle manque sur un grand écran. En tout cas, elle est extrêmement bien conservée par contre. Hein.
Et voilà. Il est question de ses attributs, donc ils lui ont fait des prothèses.
On la voit bien en maillot de bain. Elle interprète une ancienne top modèle spécialisée en maillot de bain, ce qui est un peu la honte dans le monde de la mode, et qui est devenue fashion police pour Interpol.
Donc pour une fois, la bande-annonce, elle n'est pas mensongère. Hein.
Ah, pas du tout, mais on ne voit que les... C'est même pas les bons gags qu'on voit dedans, c'est les plus mauvais, drôle, mais il n'y a pas mieux en fait dans le reste du film, et ça dure presque 1h15 quand même. Enfin voilà, Zoolander 2, à ne pas voir, revoyez le 1 par contre, qui est très très drôle.
Merci Marine. Avant de retrouver Divergent 3, Brooklyn et Saint-Amour, c'est Belgica.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors il y a eu La merditude des choses en 2009, et puis plus près de nous, Alabama Monroe, un mélodrame traversé par la musique bluegrass. Et avec Belgica, eh bien, Felix van Groningen nous refait le coup du film où la musique articule la mise en scène. Alors nous sommes à Gand, en Belgique, dans les années 2000. Dans cette ville de la Flandre, eh bien, il y a un bar, le Belgica, tenu par Joe, un jeune célibataire borgne, passionné de musique. Dans le Belgica, tous les paumés peuvent venir et les concerts, eh bien, c'est tous les soirs. C'est un petit coin tranquille qui va prendre une autre tournure quand le frère aîné de Joe va s'y intéresser. Alors autant Joe est plutôt posé et vaguement timide que Frank est grande gueule. C'est un père de famille qui trouve que sa vie, eh bien, n'est pas très rock'n'roll. Il va donc convaincre son frère d'investir dans le Belgica pour l'agrandir et en faire un lieu incontournable, une arche de Noé, pense-t-il. Alors l'idée, c'est de faire un lieu de musique et de fête, d'accepter tout le monde et que personne n'ait envie d'en partir. Et ça marche. Rock'n'roll, électro, fanfare, petit, grand, jeune, vieux, drôle, de trogne, Belgica devient le lieu pour faire la fête. Alors pour les deux frangins, c'est aussi un moment où ils sont en symbiose, mais ça ne va durer qu'un temps. Hein. D'un côté, Joe, le plus jeune, parvient à tisser une histoire d'amour. De l'autre, Frank eh bien, s'éloigne de sa famille en vivant de sexe, de drogue et de rock'n'roll. On a là un des ressorts dramatiques de Belgica. La réussite du club dans la bonne humeur et l'excès va contaminer la relation des deux frères et l'arche de Noé va prendre l'eau. Van Groningen ne reste pas rivé au Belgica et son humeur mais va aussi eh bien, chez Frank dans le quotidien et la normalité qui, elle, n'a rien de rock'n'roll. Alors on ne quittera plus cette dualité. Opposer les fameuses responsabilités familiales avec le monde de la nuit, on en a vite fait le tour. Pourtant, le réalisateur va parvenir à tenir l'équilibre jusqu'au bout grâce aux tensions dramatiques qu'il a installées entre les deux frères. Alors, tout comme Alabama Monroe, reposé sur la musique, Belgica s'appuie sur une bande-son bien préparée par Soul Wax, autrement connu sous le nom de Too Many DJs. Le groupe belge d'électro-rock a dû composer avec les différents styles admis au Belgica et inventer plusieurs formations pour fabriquer un melting pot musical savoureux et parfois entraînant. Alors, il valait mieux, hein, parce que les soirées du Belgica étant explosives, Groningen passe évidemment par la musique, un montage serré, des plans d'ensemble et puis des acteurs en roue libre. La sauce prend bien, même si ça n'est pas toujours facile de regarder des gens faire la fête, hein, la cocaïne plein le nez. Alors qu'on est arrivé dans un fauteuil de cinéma, dans l'obscurité d'une salle, avec très peu de réactions dans cette salle. Moi, j'avoue que je bougeais un peu des pieds avec la musique, mais c'était à peu près tout. Au final, Belgica se laisse appréhender par sa musique, ses acteurs, son ambiance entre drame et comédie. Alors, on ne nous raconte pas comment deux frères ont monté un club à la mode, bien que ce soit la partie festive, mais comment ce succès va conditionner leur éloignement. Et on va écouter un montage de la bande sonore du film. Il y a 16 morceaux qui ont été extraits dans une bande originale, et j'ai réussi à les rassembler en un peu plus de 2 minutes. Voilà, C'était donc condensé, la bande originale du film de Belgica. À noter que c'est inspiré d'une histoire plus ou moins vraie, en tout cas ce lieu, puisque c'est le père de Félix von Groningen, le réalisateur, qui avait donc un lieu comme celui-ci, qui a été racheté ensuite par deux frères, donc voilà, qui l'ont inspiré pour cette histoire, puisqu'on voit en fait bien le Belgica, ça part d'un petit bar et qui ensuite devient un tout autre établissement. C'est aussi un des ressorts du film, film que je vous conseille.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Bon, moi je reviens avec un film où on picole pas mal, hein, avec Saint-Amour. Donc. Alors chaque année, Bruno s'embarque en compagnie de son pote de comptoir dans la route des vins sans quitter le salon de l'agriculture. Enfin, c'est juste un prétexte pour prendre une énième biture, car hors de question d'apprécier les vins de France. Chaque verre est avalé cul-sec, ce qui nous vaut une des scènes les plus comiques du film en introduction. Alors son père, venu présenter son taureau, hein, décide sur un coup de tête, afin de se rapprocher de Bruno, de l'emmener faire une vraie route des vins en taxi, conduit par un chauffeur, Mike. Et c'est parti pour un one movie bien français, entre repas arrosés, personnages insolites, lendemain de cuite difficile et rencontres féminines diverses. Le périple est mouvementé au cœur d'une France profonde un peu irréelle, entre franchouillardise assumée et situations insolites sous influence surréaliste. Alors, il y a chez Carven et Delépine une envie un peu antinomique de faire cohabiter l'univers d'un Buñuel punk avec celui de la comédie populaire française, situant son humour un peu en dessous de la ceinture. On écoute un petit la bande-annonce ou un petit extrait.
Chaque année, on fait la route des vins, sans sortir du salon.
Et chaque année, on change de route.
Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est.
Ma chance.
Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin.
Papa, j'ai une semaine de vacances par an. C'est tout ce que je dis.
On va la faire, ta route des vins, mon Bruno. C'est quoi votre prénom ?
Mike.
On dirait un prénom de tracteur américain. Ma douce, tout va bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai recommencé à boire. Mais la très bonne, c'est que je me suis rapproché de Bruno.
Bonjour ! Ne t'inquiète pas, maman, je regarde à ce qu'il boit pas trop.
Au fait, je voudrais simplement vous signaler que mon compteur affiche 2654 euros.
Pour la ferme, ça m'étonnerait que j'arrive à le convaincre. Enfin, faut pas que je m'énerve. Faut pas que je m'énerve. Bruno, tu es un bon garçon.
J'ai un petit Pouilly Fuissé 2011. Faut prendre le temps, faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur.
Je vais prendre une chasseur.
Alors le fils Bruno est incarné par un Paul Ward en total roue libre ou roue ivre, comme on veut. Parfois drôle et émouvant, mais le plus souvent irritant, se livrant à un numéro de cabotinage que certains trouveront exquis, mais qui a tendance à décrédibiliser un personnage pathétique qui croule sous les stéréotypes les plus éculés. Alors face à lui, Depardieu paraît étonnamment sobre. Il traîne sa masse imposante avec une certaine classe et on lui doit sans doute les meilleurs moments du film. Mais bon, ce qu'il fait n'est pas neuf. Il était même, à mon avis, plus étonnant dans Mammouth. Enfin, bon, bah, Vincent Lacoste, la petite star qui monte en chauffeur de taxi, un peu frustré et mytho, montre les limites d'un jeu post-ado efficace dans la répartie, mais souvent dénué d'émotion. Alors, ce n'est évidemment pas de la faute de l'acteur, mais d'un rôle écrit sur mesure qui manque singulièrement d'épaisseur et d'existence. Mais c'est un peu tout le film qui manque un peu de chair, non pas de réalisme, car on n'est pas là pour ça, mais de crédibilité et de substance. Carven et Delépine enchaînent les scénettes façon Groland, sans jamais chercher un quelconque sens ou à les relier entre elles à travers une mise en scène réfléchie. On a l'impression d'assister à une suite de sketchs inégaux dans lesquels apparaissent très souvent des personnages féminins incongrus. Alors entre la jeune dépressive qui s'inquiète de la dette de la France, la lesbienne qui se tape Bruno pour se venger de sa copine et de la belle Vénus qui demande aux trois lascars de lui faire un enfant, je suis resté un peu dubitatif devant ces silhouettes un peu désincarnées et irréelles. Il est par ailleurs surprenant de lire dans la presse des avis aussi tranchés, certains louant un nid magnifique à la femme, alors que d'autres au contraire vilipendent la crasse misogynie du film, voire même son idéologie lepéniste. Alors, non, mais c'est très curieux. J'ai fait un peu le tour comme ça et ça passe d'un avis tranché à l'autre, en fait. Alors, pour ma part, j'irais ni l'un ni l'autre. C'est un peu le problème des critiques un peu soit dithyrambiques ou qui aiment bien défoncer un film. Pour moi, Saint-Amour est une balade, on va dire, anarcho-populiste qui possède ses moments réjouissants, mais reste constamment alourdi par ses relents de beaufrie inattendus, sa poésie de comptoir et son dérapage sentimental pénible en fin de parcours. Alors l'épilogue, gentiment libertaire, supposant un amour partagé à quatre, a des relents déjà vus et rappelle en moins maîtrisé certains films de Bertrand Blier. Mais surtout, et c'est là que le film déçoit, Saint-Amour est plombé par une mise en scène vraiment apathique, sans inspiration. respiration. L'ensemble est pour moi approximativement cadré et filmé et ne fait rien de ses décors naturels, succession de cartes postales ringardes. Alors ce qui n'était pas le cas par exemple du Grand Soir qui utilisait de façon très pertinente le no man's land d'une zone industrielle. Et surtout, je repense aux premiers films. Les premiers films du duo bénéficiaient d'une ambition esthétique et narrative d'une autre ampleur. Je parlais des remarquables L'Altra et Avida, qui était un hommage un peu au dadaïsme. Alors, on s'attendait à un bon cru, puis au fond, on a droit un peu à une piquette. Bon, c'est un peu... Gageons qu'il ne s'agit là que d'un accident de parcours. À la limite, Saint-Amour n'est à voir que pour une séquence un peu vulgaire, certes, mais drôle et rythmée, celle où Paul Ward raconte les 10 étapes d'un alcoolique en accéléré. Mmh. Un truc un peu étrange, c'est la musique de Sébastien Tellier, qui paraît complètement à côté du film. Enfin, mmh. L'impression qu'ils ont demandé à Tellier de...
Vas-y, fais ce que tu veux, gars.
Fais ce que tu veux, et c'est pas du tout dans le ton. Mmh.
Merci, Saint-Amour est déjà sur les écrans, et c'est pas le cas bien de Brooklyn.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors la jeune Ellis, dont le nom rappelle Ellis Island, l'île sur laquelle les premiers migrants accostèrent, Ellis donc est une jeune Irlandaise pauvre, dont le seul espoir est de quitter son pays pour partir trouver du travail à New York, la terre promise. Elle tente d'oublier le mal du pays en travaillant dans un grand magasin et en prenant des cours de comptabilité à côté, puis rencontre un charmant plombier italien qui lui apprend à aimer l'Amérique. Ils se marient en secret, mais lorsqu'elle revient chez elle en Irlande, elle se trouve écartelée entre deux choix de vie. Doit-elle rester dans son pays natal et épouser un Irlandais bien né ou abandonner une seconde fois sa famille pour s'installer véritablement en Amérique et rejoindre son mari ?
Je peux te parler.
Tu veux parler de quoi ?
De l'avenir. Il est hors de question de te laisser repartir en Amérique sans te dire ce que j'ai à dire. Je le regretterai pour le restant de mes jours. Alors, voilà. Je veux pas que tu t'en ailles. Je veux que tu restes ici, avec moi. Et je sais que ça implique que je te fasse une autre demande. Mais je ne veux pas te bombarder de questions. Alors, je la garderai pour plus tard.
Instant romantisme. Alors on a un peu de mal à trouver un quelconque intérêt à Brooklyn, hein, si ce n'est sa capacité à nous replonger dans une époque pas si lointaine où les migrants étaient les Européens. La reconstitution historique est fort bien faite, la lumière est très soignée, les costumes sont très beaux, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Plutôt normal qu'il ait été nominé 3 fois aux Oscars, le film glorifie les valeurs de l'Amérique, son ouverture aux autres peuples. Il n'est jamais question de la xénophobie dont ont souffert les Italiens et les Irlandais, et malgré les difficultés d'intégration auxquelles se heurte la jeune héroïne, New York est toujours filmé comme le paradis à atteindre. La jeune Saoirse Ronan, pas du tout comment le dire, justement, elle a un nom irlandais imprononçable, porte à bout de bras ce premier rôle. On l'avait découverte dans Les âmes vagabondes, un énième film d'anticipation dans lequel une jeune fille devait sauver la race humaine tout en hésitant entre deux jeunes hommes. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, c'était sorti il y a 2-3 ans, dans la même veine que Hunger Games, Divergente, enfin bref. Eh bien ici, c'est à peu près le même scénario finalement, tout tourne autour de l'éducation sentimentale d'une jeune fille, les scènes d'action en moins évidemment, sauf que son personnage est tellement lisse que l'on n'a aucune envie de s'y attacher. Brooklyn est un bel hommage à tous ces Irlandais qui ont changé de vie, à une époque où l'on ne s'expatriait pas comme maintenant, à une époque où quitter son pays signifiait prendre d'énormes risques financiers voire physiques. Dommage que tout cela déborde de classicisme, qu'il n'y ait aucune fraîcheur, aucune fantaisie. C'est tellement académique que ça ne laisse aucun souvenir, c'est vendu comme un beau portrait de femme. Alors déjà, quand on nous dit ça, au secours, on n'a qu'une seule envie, c'est de partir en courant. Puis non, c'est vraiment d'un ennui mortel. Mmh. Voilà, je vous le conseille pas vraiment.
Bon, si on veut des films sur l'immigration, Ellis Island, c'est The Immigrant de James Gray.
Là, c'est autrement plus transcendant.
Et des histoires de baston, Gang of New York, et puis voilà.
Voilà, tu as tout résumé.
On se passera de ce petit drame, et on se passera aussi de la chronique sur Divergente 3, qui sort ce 9 mars. On la fera une prochaine fois, parce que le film ne le mérite pas tant que ça.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Nous étions dans les drames, dans les comédies, et la semaine prochaine, on fera aussi un grand écart entre The Assassin et puis Divergente 3 et d'autres films. C'est ça, hein ?
Exactement. Hein.
Mm. Et oui, à la semaine prochaine.
C'est ce qu'on se dit à chaque fois.
Si
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.